Mondial Sport sur RFI. Tom Rossi.
Bonsoir à toutes et à tous. Egan Bernal, sacré sur les Champs-Élysées à Paris. Le Colombien a remporté le Tour de France cycliste, une grande boucle édition 2019 qui restera dans les annales du cyclisme. Bilan avec Thomas de Saint-Léger. Un autre Thomas, Thomas Moulin, a rencontré le nouveau recordman africain du triple saut en plein air. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango s'est envolé au championnat de France d'athlétisme. Reportage à suivre. Et puis dans Mondial Sport, on n'oublie pas l'équipe de football du Tchad qui a fait son retour à la compétition ce dimanche. Après plus de 3 ans d'absence, les Sao ont disputé un match des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. On n'oublie pas non plus les basketteurs de la NBA présents à Dakar pour un camp d'été auquel participent de nombreux jeunes du continent. Enfin, n'oublions pas Tokyo 2020, les Jeux Olympiques. C'est dans un an, le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, Mondial Sport, c'est parti. Cette fois, la grande boucle est bouclée avec en fond sonore l'hymne colombien. Egan Bernal remporte le 106e Tour de France, le premier, on le disait hier, pour son pays. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Tom, bonsoir à tous.
Vous avez suivi ce tour pour nous. Vous étiez ce soir sur les Champs-Élysées, des champs jaunes, bleus, rouges ce soir.
Oui, aux couleurs du drapeau de la Colombie, bien sûr, beaucoup de supporters cafétéros sont venus assister à la dernière étape remportée au sprint par l'Australien Caleb Ewan, mais aussi et surtout acclamer leur héros Egan Bernal, très ému, presque incrédule, les yeux humides au moment de monter sur la première marche du podium, encadré par son coéquipier Geraint Thomas, deuxième, et par le Néerlandais Steven Kruijswijk, troisième. Un discours rapide, c'est pas son forme, même s'il s'est appliqué pour quelques phrases en français. Ça n'est pas ce qu'on retiendra de lui hein, sur ce Tour de France, même si c'est assez révélateur du personnage, saignant sur le vélo, doux comme un agneau, presque fragile. Dès qu'il descend de la machine, on a toujours l'impression qu'il se demande ce qui lui arrive. Il va peut-être mettre quelques jours à réaliser que oui, il a gagné ce Tour de France à 22 ans. C'est le plus jeune vainqueur de l'après-guerre. Et quelque chose me dit Tom qu'il va devoir acheter une grande armoire pour ranger tous les trophées qu'il accumulera tout au long de sa carrière.
Eh bien oui, puisque Egan Bernal, c'est un phénomène de précocité repéré il y a déjà quelques années.
Oui, il se fait d'abord un nom en VTT à 17 ans. Premier coup d'éclat, une médaille d'argent aux Mondiaux juniors. Ensuite, tout va très vite. Une équipe italienne lui fait signer son premier contrat professionnel. Le gamin de Zipaquirá, petite ville perchée à 2600 mètres d'altitude et située à 40 km de Bogota, passe au cyclisme sur route. Il l'apprend vite, il apprend très bien. Tout cela combiné à un talent naturel hors norme, ça donne ce qu'on appelle un crack. Et c'est pile ce que recherchait Dave Brailsford, le manager de la surpuissante équipe Sky, devenue depuis Ineos.
On voulait quelqu'un de nouvelle génération. Alors on a vraiment cherché, et puis quand j'ai vu Egan, j'ai décidé, voilà, pas seulement ce qu'il peut faire sur le vélo, mais son comportement, il est très mûr pour un gars de 22 ans. Et puis en plus, même s'il grimpe très très bien, il n'est pas petit non plus. Alors dans les bandes de côté, dans nos contre-montres par équipe par exemple, il a la puissance de rester, ça c'est rare. Alors on a décidé d'essayer de la prendre, on a pris et puis on est content qu'on a fait.
Dave Brels, aujourd'hui maillot de la Colombie, maillot de foot sur les épaules, très décontracté il peut l'être. C'est le 7e Tour de France en 8 ans remporté par son équipe.
Et de ce tour on retiendra aussi les coups d'éclat français avec Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe.
Pinot brillant dans les Pyrénées, vainqueur au Tourmalet avant ce coup de massue, l'une des images fortes de ces 3 semaines, l'abandon en pleurs, stoppé dans son élan par une blessure musculaire à 3 jours de l'arrivée, alors qu'il pouvait au minimum viser le podium final, 2 jours même de l'arrivée. Et puis, que dire de Julien Alaphilippe, 2 étapes dans sa musette, 14 jours en jaune, 1/5e place finale. Le puncher a fait jeu égal avec les meilleurs grimpeurs pendant au moins 2 semaines. Il a fait rêver la France. France, même si dans son discours, il est toujours resté très prudent, très calme, comme d'ailleurs quelqu'un qui s'y connaît, le patron emblématique de son équipe de Koenig Quickstep, Patrick Lefebvre.
Je suis pas un rêveur de nature, donc j'ai dit dès le début, on regardera jour par jour ce qu'on a fait. On sait qu'il y a des limites à tout. On peut pas toujours vouloir plus et plus, ça c'était déjà fantastique. S'il faisait encore plus, c'était bien, mais je pense qu'on avait, un petit peu besoin de l'aide de Dieu. S'il neigeait au pied de l'Isran et la tempête continuait à Val Thorens, oui, mais sinon non.
Alors, est-ce que ça peut quand même vous donner l'envie de le préparer, et lui aussi d'ailleurs, lui donner l'envie de se préparer pour, à l'avenir, jouer vraiment le général ?
Court l'avenir, non. Long avenir, oui.
Alain Philippe, qui est monté sur le podium tout à l'heure pour recevoir le prix du super combatif. Le maillot à poids revient à Romain Bardet et le maillot vert du classement par points au Slovaque Peter Sagan, sacré pour la 7e fois, record absolu.
Et il y a aussi ceux qu'on a moins vus, mais qui eux aussi ont fini le Tour de France.
Et c'est déjà bien, 155 à l'arrivée sur 176 au départ. L'avant-dernier de ce classement, c'est Johan Ofredo, le Français. Tour de galère pour lui avec des échappées sans réussite au début, un mauvais virus ensuite. Arrivé au bout forcément de cette boucle, c'est un sentiment particulier pour lui.
J'ai franchi la ligne avec Lars Bak et il y a 10 jours on était lâchés tous les deux à plus de 35 minutes du peloton. On ne savait même pas si on allait terminer l'étape, alors encore moins le Tour de France. C'est un sentiment très particulier. Tu refais le cours de tes 10 derniers jours, voire de tes 20 derniers jours, et tu te dis, voilà, il y a eu des moments, il y a eu des beaux moments, mais il y a eu des très, 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 très durs moments. Et bizarrement, dans les deux derniers kilomètres, j'avais une forme de nostalgie. J'étais un peu triste, en fait, que le tour soit presque fini. Alors que ça fait 10 jours que j'ai mal, ça fait 10 jours que je galère. Mais finalement, au bout d'un moment, tu te complais dans la souffrance. Tu t'y fais à cette souffrance et elle fait partie de toi et elle fait partie de ton quotidien.
Johan Ofredo, plusieurs fois échappé tout de même, comme d'ailleurs Nathanaël Béran, 86e du classement général. On a vu le maillot de champion national érythréen cette année et ça pourrait continuer l'an prochain. Il vient de prolonger son contrat avec l'équipe Cofidis. Voilà, c'est l'heure de boucler cette grande boucle pour nous. Tom, merci à Richard Effeno, Bertrand Éclair, Christophe Diremzian, Carlos Pizarro et Rosie Collière qui nous ont accompagnés tout au long de ces trois semaines. Et merci à vous de nous avoir suivis.
Et merci à vous, Thomas de Saint-Léger. Merci. Mille merci et bonne soirée. Comme hier, Mondial Sport fait une halte à Saint-Étienne pour les championnats de France d'athlétisme. Pour en parler, j'ai nommé Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Tom, bonsoir tout le monde.
Et des championnats de France, théâtre d'un record d'Afrique.
Eh oui, Hugues Fabrice Zango a profité du retour du soleil cet après-midi à Saint-Étienne pour s'offrir le record continental du triple saut en plein air. Le Burkinabé, licencié dans un club français, a tout simplement écrasé la concurrence sous les yeux de notre envoyé spécial, Thomas Moulin.
On l'attendait, il l'a fait.
Il a remporté brillamment ce concours du triple saut masculin Artois athlétisme. Fabrice Zango, Burkina Faso.
Le sauteur burkinabé, nouveau recordman d'Afrique du triple saut en plein air, ici à Saint-Étienne. La Fédération française a bien fait de reporter le concours, initialement prévu hier soir. Sous une pluie battante, il aurait été bien difficile de faire mieux que les 17m37 du Marocain Tariq Bouktaïb 12 ans plus tôt. Un objectif bien loin d'omnubilé, Hugues Fabrice Zango.
Franchement, j'y ai pas pensé quand j'ai fait 17,50. J'ai dit, ah ouais, je suis à 8 cm de mon record, c'est bien. J'ai même pas pensé au record d'Afrique en plein air. C'est vous qui me l'apprenez en fait. C'est vrai que c'était 17,37, ouais. Bon, là c'est effacé. On va repartir dessus pour essayer de toujours l'améliorer. On verra.
Abattre donc ces 17,50 m, une performance réussie dès son premier essai.
C'est quand même un peu tactique le triple saut, il faut dire. Et là, effectivement, on essaie de bosser mon premier essai qui est souvent le moins bon. Habituellement, c'est au dernier essai que j'ai réussi à placer des perfs. Mais là, c'était vraiment placer un premier essai qui est le meilleur en fait du concours. Et ça, c'est fait. Je pense qu'on a passé justement ce niveau-là. Je peux faire un concours régulier à la même perf en fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose.
Un concours démarré pied au plancher qui satisfait son entraîneur Teddy Tamgo, pour qui ce record d'Afrique n'est qu'une étape supplémentaire.
Je trouve qu'il a super bien maîtrisé son concours. L'objectif était, dès le premier essai, de casser le concours, de ne laisser aucune chance aux adversaires. Il a super bien géré cette entame de compétition. Il a sorti directement à 17,50 m. Il a réussi à réitérer avec 17,49 m. disons que c'est une satisfaction parce que c'est bon de retrouver ce genre de performance comme le 17m58 qu'il a fait cet hiver. Maintenant, on ne va pas non plus trinquer à cette performance. Elle fait partie du chemin et voilà, c'est bon à prendre.
Bon à prendre avant les Jeux africains fin août à Rabat et à tout juste 2 mois des mondiaux à Doha au Qatar. Une compétition qu'Hugues Fabrice Zango apporte dans la peau d'un sérieux outsider, lui qui détient désormais la 5e meilleure performance mondiale de l'année. Mais pour espérer être champion du monde, il faudra sans doute faire encore mieux. C'est pourquoi le Burkinabé a pris des risques sur la fin de son concours stéphanois.
Comme j'avais tué le concours, on a essayé de travailler un truc avec le coach. En fait, 2 gros mordus quand même au-delà de 17-80, je pense qu'il y a des choses qui se mettent doucement en place et quand ça voudra sortir, ça sortira.
Et pourquoi pas aller au-delà des 18 mètres? Son coach l'a déjà fait et invite son athlète à viser toujours plus loin.
Sur les autres essais, on a cherché à préparer la grosse performance. Les éléments techniques qui lui permettront au championnat du monde de pouvoir se lâcher et j'espère aller encore beaucoup plus loin que ça. Ça s'est bien passé puisqu'il a mordu de sauts vraiment incroyables. Mais je suis aussi content que ces sauts ne soient pas mesurés parce que je veux qu'il continue à avoir faim. Hugues, c'est un homme en mission. Et tant que la mission n'est pas accomplie, je sais qu'il attaquera. Donc j'espère qu'il continuera à attaquer jusqu'au championnat du monde.
Tamgo, Zango, un duo qui a désormais 1 mois de préparation pour terminer en apothéose une saison déjà exceptionnelle. Thomas Moulin, Saint-Étienne, RFI.
Hugues Fabrice Zango qui disputera le meeting de Paris le 24 août avant de s'envoler pour Rabat et les Jeux africains. Le seul titre continental qui manque encore à son palmarès, lui qui est champion d'Afrique en titre.
La Coupe d'Afrique de football, à présent Antoine, les éliminatoires du CHAN avec l'événement marquant du jour, le retour à la compétition de l'équipe du Tchad.
Et dans sa zone d'Afrique centrale, les SAO privés de matchs depuis près de 3 ans et cette suspension prononcée par la FIFA. Le retour sur le terrain a donc eu lieu cet après-midi face à la Guinée équatoriale et il a donné lieu à un match spectaculaire soldé par un 3-3. Les supporters tchadiens ont d'ailleurs répondu présents lors de cette rencontre, comme a pu le constater notre correspondant Saint-Yves de Zabetchouadang.
Attendus au rendez-vous par leurs supporters, les SAO n'ont pas démérité à l'occasion de leur premier match officiel. À défaut d'une victoire, les joueurs locaux se contentent d'un match nul face à une équipe équato-guinéenne qui a démontré un jeu plus cohérent que leur adversaire. Le manque d'expérience et cette longue période d'absence ont pénalisé les joueurs tchadiens face à leur public plus déterminé et exemplaire. Un public qui est resté debout derrière son équipe, dès le coup d'envoi du match jusqu'au sifflet final.
Il faut tirer chapeau aux joueurs. Vous êtes sans ignorer que depuis 3 ans, le Tchad n'a participé à aucune compétition internationale. Et vu le niveau du jeu déroulé ce soir par les SAO, nous pensons qu'une équipe est en construction et à cette allure, nous pouvons espérer le meilleur dans les jours à venir.
Après 3 ans d'absence, notre retour est remarquable. Ils ont vraiment bien joué. On espère qu'au retour, on va gagner. Et nous demandons tout simplement aux supporters, à tous les Tchadiens d'être derrière nos ambassadeurs. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons les encourager. Il n'y a que nous qui pouvons faire du foot tchadien ce qu'il doit être. Et on est vraiment fiers, non seulement de nos ambassadeurs, mais également fiers de l'engouement qu'on a vu ce soir ici au stade Idriss Mamadou.
Pour certains supporters, les SAO se sont défendus dignement sur le terrain. C'était un retour remarquable, disent-ils.
On a développé le jeu, mais en face, on a vu une équipe guinéenne qui a géré vers la fin. Quand l'équipe du Tchad voulait courir derrière l'égalisation, elle a pu égaliser effectivement. Mais le temps n'était pas et ils ont bien géré, mais nos joueurs sont très jeunes, ce qui fait qu'il n'y a pas la maturité et donc le manque d'expérience. Mais il y a du talent avec le travail qu'il va falloir que les techniciens s'y mettent. Pour le match retour, je pense qu'on pourrait mieux faire et corriger l'erreur qui s'est passée cet après-midi.
Nous avons une équipe combative. Et cette équipe, si réellement nos dirigeants politiques s'ils s'investissent sur cette équipe, nous espérons que dans les années à venir, nous aurons une équipe de son nom et une équipe qui va nous vraiment représenter efficacement dans les différentes compétitions. Le match nul 3-3, c'est des petites erreurs. Et Inch'Allah, dans le match retour, nos coachs ils vont se rectifier. Ils vont rectifier les petites erreurs commises durant ces premiers matchs. Ça va être très difficile pour nous et ça va être aussi très difficile pour l'équipe adverse.
Les Sao auront juste quelques jours devant eux pour se préparer et repartir à l'assaut dans une semaine en Guinée équatoriale pour continuer de faire rêver les milliers de supporters qui croient encore. Ndjamena Saint-Yves des Abetouadans, RFI.
Et dans cette même zone d'Afrique centrale, la Centrafrique se qualifie faute d'opposants. Les fauves locaux devaient affronter les joueurs de Sao Tome et Principe, mais ces derniers ont déclaré forfait. Du coup, la Centrafrique affrontera la RDC en septembre pour le second tour de ses éliminatoires. Et puis du côté de l'Afrique australe, la COSAFA, deuxième tour éliminatoire. Madagascar s'impose au match aller sur le Mozambique 1-0. L'Afrique du Sud a résisté mais s'incline 3-2 sur le fil face au Lesotho. Un partout entre l'Iswatini et l'Angola.
Et puis en Afrique de l'Ouest, dans la zone B, les retrouvailles entre le Togo et le Bénin se sont soldées par un match nul, Antoine.
0-0 entre Épervier et Écureuils locaux dans une sorte de revanche de la dernière journée d'éliminatoire de la CAN où l'équipe A du Bénin avait sorti celle du Togo. Cette fois à l'aller pour le CHAN, pas de vainqueur. Et petite frustration pour Nabil Yarou, le capitaine des Écureuils locaux. Il aurait fallu en mettre plus offensivement, juge-t-il.
C'est vraiment un peu décourageant, mais c'est pas la fin. Il nous a manqué la rage tout en attaque. Les conseils étaient clairs. Seulement que c'est à nous joueurs de mettre en œuvre ce que les dirigeants disent. Arrivez sur un terrain, ne faites pas ce que vous voulez. Faites ce que le coach veut. On peut faire ce que nous voulons. Quand ça marche, ça passe. Mais quand ça ne marche pas, là, il y aura un problème. Voilà ce qui n'a pas marché pour nous. Ça nous manque un peu de concentration devant. Et je crois qu'avec la détermination, surtout la concentration, je pense qu'on pouvait marquer facilement les buts.
À Lomé, il va falloir jouer crânement votre chance.
Eh ouais, bon, rien n'est facile. Et rien n'est impossible aussi. Nos aînés l'ont fait à la CAN. Pourquoi pas nous aussi, on n'ira pas faire ça à Lomé. Je crois que le Bénin est capable et on ira. On va essayer de corriger ça pour les fois à venir aller faire la défense à Lomé. Lomé, Bénin chez nous, c'est pas un match à l'extérieur à Lomé. C'est le même terrain, voilà. On ira faire la différence là-bas, vous allez voir.
Et du côté togolais, ce nul 0-0 est une bonne affaire, d'autant plus que les éperviers locaux ont su contrôler le match. C'est en tout cas ce qu'estime le capitaine togolais, Jean Kossi Ozou, au micro de Félix Oundé Pépéripé.
Ça fait 6 semaines qu'on a préparé le match, on les attendait depuis. On sait que chez eux, c'est pas facile, on va essayer de gérer le match, et puis on a essayé de gérer. C'était un peu difficile, mais on a pu gérer le match retour. Nous aussi, on va préparer pour les attaquer, on va préparer, on va faire tout autour pour pouvoir marquer un but chez nous, et puis on peut qualifier. L'objectif, c'est de gagner ou faire match nul. C'est notre objectif.
Donc, dans une semaine à Lomé, vous pensez véritablement vous sortir d'affaires face aux Béninois?
Ouais, nous sommes prêts, nous sommes capables de le faire parce qu'on a vu le jeu qu'ils ont produit. Si on essaie de pousser un peu, on peut le gagner.
Jean Kossi Ozou, le capitaine togolais. Enfin, dernier match de ces éliminatoires de la zone A ce dimanche. Le Sénégal s'est incliné 1-0 en déplacement au Libéria. Tous les matchs retour se disputeront la semaine prochaine.
Et décidément, les championnats d'Afrique sont à l'honneur ce week-end dans Mondial Sport. Après le football, le volley à Tunis, c'était jour de finale ce dimanche. Tunisie-Cameroun.
Et la Tunisie s'est imposée 3-7-2 face aux Camerounais. 10e titre tunisien de l'histoire des Camerounais. Qui avait battu cette même Tunisie 3-7-0 il y a un peu moins d'un an au championnat du monde en Italie. Cette fois, les Tunisiens ont pris leur revanche. Les Camerounais qui ont au passage concédé leur premier set de la compétition. Ils auront été impressionnants jusqu'en finale. Ces Camerounais dans le match pour la troisième place. Victoire 3-7-1 de l'Algérie face à l'Égypte. Les Algériens avaient fini quatrième lors des trois des quatre dernières éditions de cette CAN masculine de volley.
On passe au basket, Antoine, avec peut-être les futurs champions du continent. Lancement ce matin au Sénégal de l'édition 2019 du Basket Without Borders.
Le basket sans frontières, un programme de la NBA destiné aux jeunes basketteurs africains. Ils sont 60 choisis pour me montrer leur savoir-faire au monde du basket et surtout au monde de la NBA. Le Basket Without Borders a d'ailleurs déjà révélé plusieurs stars africaines de la discipline, Babacar Fall.
Le Camerounais Joël Embiid, joueur de Philadelphie en NBA, est très ému quand il parle du Basket Without Borders. C'est par là qu'il est passé il y a 7 ans, avant de devenir professionnel dans le championnat américain.
Il faut continuer à travailler, le travail paye, tout est possible, parce que j'étais dans leur position en 2011, c'est là que j'ai commencé à jouer au basket en 2011, et puis en quelques mois, je l'ai fait, et c'est à cause de cette opportunité, Basketball Without Borders, que je suis où je suis qui je suis.
Les 40 garçons et 20 filles sélectionnés à travers plusieurs pays du continent vont profiter de la présence de toutes ces légendes du basket qui séjournent à Dakar et qui vont leur montrer le chemin à prendre. Gourgui Dieng, l'actuel meilleur basketteur sénégalais, pensionnaire de Minnesota aux États-Unis.
Il y a non seulement d'anciennes légendes de la NBA, mais également la présence de joueurs en activité. Sans oublier les célèbres managers venus eux aussi participer à ce programme en faveur des jeunes. C'est une énorme chance pour eux d'avoir à leur côté tout ce beau monde. Ils vont pouvoir exprimer leur talent et attirer l'attention sur eux. Alors, c'est une belle opportunité.
Et c'est la NBA Academy Africa, implantée sur les installations du célèbre Institut Jambar, situé à Sali, à 70 km de Dakar, qui va abriter ce camp de basket. Amadou Galofal, le directeur Afrique de la NBA. Pour lui, avec ça, le basket africain va continuer de progresser.
Il y a un élan en Afrique, un élan qui a commencé depuis plusieurs décennies, mais surtout qui s'est amorcé à partir de 2003 avec le premier basketball aux Alboreuses. Et surtout aussi, n'oublions pas aussi que dans ce camp, la NBA est partenaire avec Seed Project qui vient juste de boucler son 17e Book Forum. Alors ce partenariat, je pense, se traduit aujourd'hui dans cette collaboration. C'est-à-dire que notre objectif qui est de développer des talents certainement, mais pas seulement que des talents sur le terrain, mais aussi il y a des entraîneurs, il y a des managers de notre sport qui sont en train de sortir du lot pour intégrer la NBA.
Le Sénégal, lui, profite déjà bien des différents partenariats signés par la NBA en Afrique. Babacar Ndiaye, le président de la Fédération Sénégalaise de Basket.
Remercier la NBA pour cette belle initiative. Je pense qu'un programme aussi important, c'est la deuxième fois qu'il se tient à Dakar, au Sénégal. En plus de ce programme de développement de basket à la base, il y a aussi que nous avons au Sénégal la chance d'accueillir ce centre, cette académie où des basketteurs sont formés pour devenir de futurs internationaux.
La NBA qui se fixe l'objectif d'impliquer dans ses programmes plus de 2 500 000 jeunes Africains, filles et garçons, âgés de 16 ans et moins. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Un dernier regard à présent sur l'Afrocan, Antoine, l'équivalent du CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Mais pour le basket, on l'a dit hier, la première édition a été remportée par la RDC et elle va se pérenniser.
Et hébergée à Bamako dans un contexte sécuritaire toujours sensible, l'Afrocan s'est déroulé sans incident. Et pour Alphonse Billet, le secrétaire général de la FIBA Afrique, voir le Mali organiser une compétition internationale, c'est forcément un signe positif.
Aucune équipe ne s'est plainte, tout a été organisé un peu en dessous d'un afro-basket, mais nous sommes proches et je dois avouer que je m'y attendais pas. Je pensais que certains pays auraient boycotté un peu tout le processus. Non, nous avions mis 12 équipes, nous avions plus de 18 candidatures et donc c'est dire que vraiment c'est intéressant pour ces différents pays. C'est un moyen pour nous de, honnêtement, de pouvoir jouer avec nos équipes nationales tous les deux ans. Au lieu d'attendre 4 années chaque fois, voilà. Il faut être honnête, le Mali, nous ne savions même pas, mais le Mali a 3 salles ici, et cette salle, elle est adaptée. Nous avons besoin de cela. La deuxième chose, le Mali a l'habitude d'organiser. Donc, pour elle, pour le Mali, ce serait des choses assez simples et faciles. Plutôt que d'aller dans un pays qui n'a pas l'habitude. Et puis, c'était intéressant de revenir un peu dans l'Afrique noire, pour me permettre d'y parler comme ça. Parce que ces dernières années, toutes les compétitions pratiquement majeures ont été organisées en Afrique du Nord.
Alphonse Billet, secrétaire général de FIBA Afrique, au micro de Mahamadou Kaloga.
Allez, un mot de judo pour fermer cette page africaine avec une victoire à domicile pour le Niger lors de la 6e édition du tournoi international de la ville de Niamey.
Une compétition qui, pour beaucoup, aura servi de préparation aux Jeux africains. Les Nigériens raflent en tout 29 médailles, dont 8 en or. Au tableau, ils devancent donc le Burkina et le Bénin. Bilan très positif pour Youssouf Abdourahmane, le vice-président de la fédération nigérienne, qui se tourne maintenant vers le Maroc et les Jeux africains.
Certains d'entre eux représenteront le Niger aux prochains Jeux africains. Et c'était pour nous les deux occasions pour tester les valeurs de ces jeunes et voir qu'ils sont aptes, n'est-ce pas, à représenter le Niger pour les prochains Jeux.
Justement, par rapport à ces Jeux africains, comment se présente l'équipe du Niger?
Nous aurons une équipe mixte, 3 garçons, dont notre boursier olympique, qui se trouve actuellement à Zagreb, dans une compétition. Et 2 autres garçons qui iront donc de Niamey et 3 filles que nous avons inscrites pour ces Jeux.
Le Niger peut-il espérer l'or à Rabat?
Nous espérons un podium.
Youssouf Abdourahman, vice-président de la Fédération nigérienne de judo, au micro d'Ousmane Keïta.
Merci à vous, Antoine Grenier, et à demain. Il y a un peu moins de 6 ans, le 7 septembre 2013, Tokyo devenait ville hôte des Jeux Olympiques de 2020. Ce mercredi, à un an, jour pour jour de la cérémonie d'ouverture, la capitale nippone a enclenché le traditionnel compte à rebours. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Kevin Bernardi, consultant spécialiste des questions olympiques et fondateur du site internet Sport et Société. Bonsoir Kevin Bernardi.
Bonsoir.
Alors Thomas Bach, président du Comité international olympique, était évidemment à Tokyo mercredi, et dans son discours, l'Allemand a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais vu une ville olympique aussi bien préparée que Tokyo à un an des Jeux ». Kevin Bernardi, qu'est-ce qui vaut autant d'enthousiasme ?
Alors je pense que il est juste de dire que Tokyo est particulièrement bien préparé, ne serait-ce que quand on sait la rigueur et... qui caractérise les Japonais en règle générale. Dès le début de la candidature, on savait que les Japonais avaient la volonté de livrer de grands jeux. Donc c'est vrai que le projet initial avait été quelque peu perturbé. Finalement, on s'achemine vers un projet plus ou moins adapté, modulé, mais qui fera quand même la part belle, d'une part, au site hérité des Jeux de 1964, hein, donc ce qui est quand même relativement important, et après de nouveaux sites qui sont censés montrer l'innovation, la modernité du Japon. Donc c'est que les Japonais ont mis toutes les chances de leur côté pour livrer des Jeux dans les temps impartis.
Et à un an de ces JO, de ces Jeux Olympiques à Tokyo, on en est où très précisément des travaux, des installations sportives et même des infrastructures, notamment le village olympique ?
Alors à l'heure actuelle, on est sur grosso modo 90% de taux d'achèvement pour les principales infrastructures restantes, donc ce qui englobe le stade olympique, ce qui englobe aussi le village olympique. Après, il reste quelques infrastructures, comme par exemple le centre aquatique, qui plafonne autour de 75% au niveau de l'achèvement, mais tout sera prêt dans les temps, même si, comme je le disais au départ, il y a eu quelques soucis sur certains sites, comme le stade olympique.
De mémoire de consultant et d'analyste des questions olympiques, on est plutôt bien parti. C'est pour l'instant les Jeux Olympiques les mieux organisés selon vous ?
Alors, pour l'instant, c'est bien parti. Quand on regarde déjà par rapport au taux d'achèvement des sites, et ensuite quand on regarde au niveau des revenus également, puisque c'est qu'on parle souvent du coût des Jeux, et c'est que là pour Tokyo on est sur un coût qui a grimpé par rapport aux prévisions initiales, puisqu'on plafonnera autour de 11 milliards d'euros de budget, alors que le projet initial était relativement moindre. Néanmoins, quand on regarde les revenus notamment issus du programme des sponsors, on est sur une édition record. Pour exemple, les Jeux de Londres 2012, il y avait eu grosso modo 1,5 milliard d'euros de contrats. Là, on dépasse les 3 milliards avec plus d'une quarantaine, et je crois même qu'on doit se rapprocher de la cinquantaine de sponsors, de partenaires, ce qui est colossal. Et après, on le remarque aussi sur la billetterie, puisque la billetterie, on est déjà sur plus de 3 millions de billets qui ont été vendus. C'est vrai qu'à un an des Jeux, c'est quand même un taux assez élevé. Et puis on remarque aussi l'engouement, le succès populaire d'ores et déjà, que ce soit dans le cadre des premières épreuves test qui ont été organisées, et puis même au niveau du programme des volontaires qui est censé permettre le recrutement de 80 000 bénévoles. On a été sur un taux de participation de candidature de plus de 200 000 personnes.
Eh bien, Kevin Bernardi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant, spécialiste des questions olympiques et fondateur du site internet Sport et Société.
Merci.
Et les yeux rivés vers Tokyo. Mondial Sport se retire. C'est terminé pour ce soir. Et avant de quitter ce studio 31, un grand merci à Nicolas Benita à la technique. Et merci à vous qui nous écoutez. Mondial Sport revient samedi prochain, 21h30, temps universel. Bonne soirée.